Podcast Tribune K en co.
Bonjour à tous, nous nous retrouvons ce matin pour le deuxième podcast au cours du fil de l'ESMO 22 qui se déroule donc à Paris. Et ce matin, nous avons le plaisir d'accueillir Julien Mazière. Bonjour Julien, comment vas-tu ?
Bonjour Céline.
Alors écoute, si je peux me permettre, je voudrais discuter un petit peu avec toi de la session d'hier après-midi où il y a eu plusieurs présentations intéressantes. On a d'abord eu une présentation sur l'étude Apple. Donc, c'est une étude qui a été menée par l'EORTC et qui avait pour but d'investiguer le rôle finalement du suivi des biomarqueurs sanguins dans le contexte d'une thérapie par l'osimertinib ou le gefinib pour les patients avec une mutation de GFR. Alors raconte-nous un petit peu quels sont les résultats de cette étude.
Effectivement, Céline, l'essai Apple qui est de l'EORTC est un essai très intéressant dans sa conception, puisque l'intérêt était de voir si des biopsies liquides réalisées chez des patients porteurs d'une mutation de l'EGFR et traitées par une thérapie ciblée permettaient d'optimiser la prise en charge. Il y a eu trois bras dans cet essai. Les deux bras qui ont été rapportés, les bras B et C, dans les deux cas, il y avait du gefitinib, donc une molécule qu'on n'utilise plus en première ligne, mais qui reste quand même une molécule de référence pour bloquer EGFR, était donnée chez les patients. Et dans un cas, dans un bras, le changement de traitement vers l'osimertinib était décidé sur le scanner, et dans l'autre bras, c'était basé sur l'apparition de la mutation T790M lors des biopsies liquides. Donc il est intéressant de voir déjà la faisabilité de cet essai, c'est-à-dire est-ce qu'il était possible de faire des biopsies liquides itératives pour regarder par technique COBAS l'apparition de mutations de résistance. Donc la réponse est oui, ça a été possible. Est-ce qu'il y avait un impact sur la prise en charge? La réponse est oui également, dans le sens où chez 17% des patients, l'osimertinib a été commencé plus tôt par rapport à une décision qui aurait été prise sur le scanner seulement. Ensuite, est-ce qu'il y a un impact sur la survie des patients? Pour l'instant, cet essai n'était pas designé pour, on ne peut pas répondre à cette question. Donc c'est faisable, c'est potentiellement intéressant, mais les deux limites, c'est qu'on ne sait pas l'impact sur la survie des patients et que c'était basé sur le gefitinib, qui est une molécule qu'on utilise moins actuellement ou plus du tout en première intention. Néanmoins, le concept est intéressant et ça nous amène à redéfinir le suivi de nos patients. Est-ce que le scanner suffit ou est-ce qu'il faut introduire des biopsies liquides à certains moments? Et ça, cette question n'est pas encore tranchée.
C'est effectivement un concept qui est très séduisant et qui, je pense, a de l'avenir pour d'autres biomarqueurs et d'autres traitements également par TKI. Est-ce que tu peux nous parler également de l'étude Helios qui justement s'attaquait, si je peux dire, aux biomarqueurs dans le cadre des patients traités par osimertinib?
Alors l'étude Helios est cette fois-ci une étude multicentrique américaine rapportée par le docteur Piotrowska de Boston. Il y avait environ 150 patients qui ont été inclus et qui, eux, étaient traités par osimertinib, donc on va dire par le standard de prise en charge actuel, et qui, eux aussi, avaient des biopsies liquides itératives. Mais là, les données n'ont pas été rapportées. Et ce qui a été rapporté, ce sont les prélèvements tissulaires, à la fois au début et ensuite à la récidive. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que même si il s'agissait d'un essai prospectif avec des centres sélectionnés, seuls 39% des patients ont pu avoir une rebiopsie. Donc même si c'est dans nos recommandations, on se rend compte que ce n'est pas forcément réalisé ou réalisable chez tous les patients. Maintenant, si on s'intéresse aux patients chez qui cela a pu être fait, et si on regarde les mécanismes de résistance, on voit que dans les principaux mécanismes de résistance, on retrouve MET, ce que l'on savait déjà, 17%. On retrouve la C797S, donc une mutation intrinsèque à l'EGFR dans 15% des patients. Et ils ont identifié un nouveau marqueur, au nom un petit peu compliqué, qui fera beaucoup de points au Scrabble, le NKX2.1, qui est un facteur de transcription, et à mon avis, qui mérite d'être investigué, parce qu'on ne l'avait pas vu apparaître jusqu'à présent, et ça vaut peut-être la peine de voir si c'est un biomarqueur intéressant. Donc eux, ils ont montré aussi que c'était possible de rebiopsier, d'avoir des prélèvements informatifs. Après, ça ouvre la question de savoir qu'est-ce que l'on fait après de ces résultats.
Mais merci Julien. Effectivement, donc les biomarqueurs sont importants, rebiopsier c'est important, et on démontre ici l'importance de la biopsie tissulaire par rapport à la biopsie sanguine qui nous permet de rechercher d'autres mécanismes de résistance. Tu soulignes que le principal mécanisme de résistance après une thérapie par osimertinib est donc le biomarqueur MET. Est-ce qu'il y a des données par rapport à MET? Je pense que tu es bien placé pour nous répondre sur ce point, puisque tu nous as présenté une étude extrêmement intéressante hier, c'est l'étude INSIGHT. Tu peux nous en donner les points importants?
Oui, tout à fait. Donc effectivement, j'ai eu le plaisir de rapporter les résultats très préliminaires quand même de cette étude. C'est une étude qui s'intéresse aux patients donc traités par osimertinib en première ligne, qui n'avaient rien d'autre hein, que osimertinib, pas de chimiothérapie. Et lors de la récidive, ils étaient screenés pour l'amplification de MET. Et si cette amplification de MET, ils recevaient soit une monothérapie par l'anti-MET qui est le tépotinib, soit la bithérapie par osimertinib et tépotinib. Donc la première chose, je pense, qui est importante, c'est qu'est-ce qu'une amplification de MET. En tout cas, dans cet essai, c'était défini par soit sur le tissu la technique FISH, avec donc d'hybridation in situ, avec un seuil de nombre de copies du gène MET à 5 et un ratio sur CEP7 qui était supérieur à 2. Donc ça, c'est important parce que ces chiffres varient selon les études. L'autre possibilité, c'était de le faire par biopsie liquide, dont on vient de parler. Et là, c'était par une technique de NGS classique. Donc, on arrivait à diagnostiquer cette amplification. On notera, comme tu l'as dit, que la biopsie tissulaire était plus rentable, 33% de positivité versus la biopsie liquide, 11% de positivité. Ensuite, ces patients étaient traités par la combinaison osimertinib-tépotinib. Et dans les patients traités par cette combinaison et avec un suivi suffisant supérieur à 9 mois, on retrouve un taux de réponse de 54,5%. Ce qui, dans cette population, est assez intéressant. Ce sont des résultats préliminaires, donc je n'ai pas la survie sans progression ou la survie globale. À noter qu'il y avait une cohorte simplement de 12 patients, tépotinib seul, taux de réponse 8%. Donc ça confirme que ces patients, il ne faut pas les traiter par monothérapie, il faut bien les traiter par bithérapie. Autre question, est-ce que quand on associe deux thérapies ciblées, c'est toxique ou c'est supportable? La réponse est, la toxicité était celle attendue des deux molécules. Il n'y avait pas de synergie dans la toxicité, c'est-à-dire les œdèmes, toxicité digestive, diarrhée et toxicité cutanée. Mais il n'y a eu que 6% d'arrêt du traitement dû à la toxicité. Donc, donc c'est faisable, c'est associé à un taux de réponse intéressant. Maintenant, il faut attendre un peu plus de recul pour voir si ça devient un standard, mais c'est vrai que ça nous permet de donner en deuxième ligne des thérapies ciblées et d'épargner à ces patients la chimiothérapie.
Oui, donc nous devons bien rebiopsier nos patients après traitement de première ligne. Il ne faut pas négliger l'aspect potentiellement plus intéressant de la biopsie solide après l'osimertinib, contrairement à ce qu'on faisait avec des TKI de première, deuxième génération. Et on a des traitements qui apparaissent et qui sont potentiellement actifs et très bien supportés. Donc vraiment, on doit plaider la cause de la deuxième biopsie et inclure nos patients aussi dans des essais qui arrivent sur ce type de traitement de deuxième ligne. Peux-tu me dire un peu quelles sont les nouvelles par rapport à HER2? C'est également un biomarqueur qui est cher à ton cœur. Et donc, on a présenté hier l'étude Destiny-Lung02, qui nous montre aussi une autre approche thérapeutique, qui est celle des ADC. Peux-tu nous en dire quelques mots, s'il te plaît?
Alors, un petit mot, effectivement, sur le concept global des ADC, puis après sur les résultats de Destiny-Lung02. Donc, le mot ADC, vous allez l'entendre beaucoup dans les années à venir. Est-ce que cela va remplacer les thérapies ciblées ou la chimiothérapie, puisque c'est un petit mélange des deux, on ne sait pas encore, mais on va dire que c'est une arme supplémentaire. Donc ADC, ça veut dire Antibody Drug Conjugate, ça veut dire que dedans, il y a une drogue, et la drogue en l'occurrence, c'est une chimiothérapie en général assez standard, mais elle est transportée par un anticorps qui va aller la délivrer, je dirais, au niveau des cellules qui expriment le marqueur. Donc, en l'occurrence, ça peut être HER2, ça peut être HER3, ça peut être TROP2. On peut trouver, en fait, tous les marqueurs à la surface des cellules qui font que cet anticorps va aller sur ces cellules et délivrer à l'intérieur de la cellule une chimiothérapie cytotoxique. Donc, ça combine un peu l'approche thérapie ciblée d'aller que sur les cellules pathologiques et chimiothérapie, donc cytotoxique. Alors, du coup, c'est assez séduisant. En termes de toxicité, il faut voir qu'il y a de la chimiothérapie dedans, donc il y a quand même une toxicité qui est plus proche des chimios que des thérapies ciblées, alopécie, toxicité hématologique. Mais c'est vrai que le concept est très séduisant, se développe dans de nombreux cancers, cancer du sein, cancer du poumon en particulier. Donc pour ce qui concerne le cancer du poumon, il y a de nombreuses études en cours, il y a eu pas mal de présentations de résultats préliminaires avec les anti-HER3, les anti-TROP2. Là c'était avec l'anti-HER2, donc le trastuzumab deruxtecan. Il y avait l'étude Destiny-Lung01 qui avait montré des taux de réponse supérieurs à 50%, donc une molécule qui n'est pas encore disponible en France, mais qui devrait arriver assez rapidement. La question, c'est la dose. En effet, dans l'étude Destiny-Lung01, il y avait 26% de pneumopathie interstitielle, ce qui est trop pour pouvoir traiter tous les patients ainsi, donc, parce que c'était à 6,4 mg par kilo. Donc là, ils ont fait une étude où ils ont comparé 6,4 à 5,4 mg par kilo, qui est la dose donnée dans les cancers du sein. Et effectivement, c'est aussi efficace. Il n'y avait pas beaucoup de patients, mais ça donnait même l'impression d'être plus efficace. Enfin, en gros, on va dire aussi efficace et moins toxique, puisqu'on passait de 14% de pneumonie interstitielle, ce qui était déjà moins que ce qu'on avait vu dans Destiny Lung 01, à 5,9%. Donc là, on est dans des taux acceptables. Et donc, la future dose qu'on doit retenir pour les essais et puis pour la pratique quand on y aura accès, c'est 5,4 mg par kilo toutes les 3 semaines.
Merci Julien pour ces informations concernant les ADC. Ce sont effectivement des molécules très prometteuses, tant en ce qui concerne des patients avec des addictions oncogéniques que pour des patients sans addiction oncogénique. Mais nous devons porter une attention particulière effectivement à cette toxicité pulmonaire que nous avons tous observée, mais qui peut se juguler via une adaptation des doses. Nous avons parlé des thérapies ciblées, des biomarqueurs, des ADC. Je voudrais terminer avec toi sur l'immunothérapie. Nous ne connaissons pas encore précisément les bonnes modalités pour administrer l'immunothérapie. En particulier, on a tendance à l'administrer pendant 2 ans. Mais est-ce vraiment nécessaire d'administrer l'immunothérapie pendant 2 ans? Une étude originale de l'IFCT a été présentée à ce congrès, l'étude Disciple, qui nous offre un concept intéressant. Pourrais-tu nous en dire quelques mots, s'il te plaît?
Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que la question au quotidien qui nous anime tous, c'est chez un patient qui ne progresse pas sous immunothérapie ou qui est en réponse, combien de temps je traite le patient, à quel moment j'arrête? Et ça, malheureusement, on a très peu d'essais qui s'intéressent à cette question. On comprend pourquoi, c'est plutôt des essais académiques qui vont s'intéresser à cette question. Donc, c'est ce qu'a fait l'IFCT avec l'essai Disciple, qui a un design original, puisque c'était des patients avec des cancers du poumon, un stade avancé qui était traité par la bithérapie, donc nivolumab, ipilimumab, qui, quand l'essai a débuté, pouvait être considéré comme un standard de prise en charge, même si ça ne l'est pas actuellement. Et les patients qui, au bout de 6 mois, ne progressaient pas, étaient randomisés entre un arrêt du traitement ou une poursuite du traitement. Donc l'essai avait prévu d'inclure 800 patients, mais il s'est arrêté plus tôt, puisque, comme je vous l'ai dit, le standard de prise en charge s'est modifié. Néanmoins, les données ont été analysées avec 265 patients traités et finalement 71 patients randomisés et restent très intéressants, même un peu provocants, je dirais, et méritent d'être rapportés. Qu'est-ce que l'on retrouve? On retrouve dans cet essai que lorsqu'on arrête à 6 mois, on limite considérablement la toxicité. Donc on avait peut-être en tête que la toxicité était plutôt précoce, mais en fait, il y a aussi de la toxicité tardive. Donc arrêter plus tôt, ça limite la toxicité, en l'occurrence de cette combinaison de 2 immunothérapies. Et est-ce que c'est moins efficace? Il s'agissait d'un essai de non-infériorité, donc ce n'est pas moins efficace. Je dirais même que si on regarde les courbes, la courbe des patients qui avaient arrêté était un peu supérieure à celle des patients qui avaient continué. On ne peut pas faire de tests statistiques là-dessus, mais globalement, c'est moins toxique et pour une efficacité qui n'est pas diminuée. Donc ça relance le débat, à quel moment je dois arrêter? Et c'est vrai que la présentation était très intéressante, elle était suivie d'une discussion aussi où on s'est intéressé à ce qui se passe dans le mélanome, puisqu'on tire souvent des enseignements de l'immunothérapie dans le mélanome, où on voit qu'ils n'hésitent pas, dans le cadre des bithérapies, à interrompre au bout d'un an, parfois même 6 mois, en réalisant des TEP scans pour évaluer la réponse métabolique. Donc ça ne donne pas de réponse, mais ça nous amène à nous interroger sur des interruptions probablement plus précoces de l'immunothérapie. Et pour répondre à cette question, qui donc n'est pas du tout close, l'IFCT va relancer un essai qui s'appelle DIAL, qui va là aussi s'intéresser avec les traitements actuels sur la durée de l'immunothérapie. Et donc les résultats seront très intéressants pour notre pratique.
Merci beaucoup Julien. Effectivement, donc toujours une place pour les essais académiques, et donc en particulier cet essai DIAL qui va ouvrir bientôt et qui va comparer chimio plus immunothérapie cette fois-ci avec un stop and go après 6 mois en fonction du statut thérapeutique. Ben, je te remercie infiniment et je vous donne rendez-vous demain pour le dernier podcast de l'ESMO où nous discuterons des sessions qui seront présentées cet après-midi. Donc je vous invite à les suivre. Cet après-midi, 2 sessions intéressantes, dont notamment la session présidentielle où 2 études sur le cancer du poumon seront présentées. À demain, bonne fin de journée.
Podcast Tribune K Onco.